d'édition et paru chez Textuel, les voleurs d'avenir, avec en sous-titre « Pourquoi l'extrême droite peut avoir de beaux jours devant elle ?» Et en fait, j'ai collaboré à beaucoup d'ouvrages collectifs, un sur les populismes récemment, et beaucoup d'annuaires sur l'état de l'extrême droite en France et en Europe. Voilà, mais...
Je m'aperçois à la fin de l'émission qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer une des thématiques majeures, bien sûr, des droites radicales et de l'extrême droite, qui est celui de l'antisémitisme, qui mériterait une émission complète, mais c'est important quand même de le souligner. Même si aujourd'hui, ça n'est plus ce qui est mis en avant, en tout cas dans le discours officiel, que ce soit de Marine Le Pen et puis aussi des gens qui sont autour de d'Éric Zemmour, cet antisémitisme, il continue d'irriguer la droite extrême, en particulier les courants catholiques traditionnalistes.
On dire deux mots, oui, effectivement, ça a disparu des radars des discours officiels, mais il y a une énorme production d'ouvrages strictement antisémites en France, plusieurs centaines de livres aujourd'hui disponibles. Je suis en train de travailler dessus, donc c'est un peu névralisant, mais ce qui est très frappant, c'est que une partie des arguments antisémites sont réutilisés tels quels comme arguments anti-musulmans, islamophobes. Ils se disent, les juifs sont fourbes, disent pas ce qu'ils pensent, et en secret veulent dominer le monde car ils sont tous solidaires. Bon, on regarde les trucs sur l'antisémitisme, sur l'islamophobie, c'est la taqiya, le droit, soi-disant, des musulmans de dissimuler, et c'est les frères musulmans qui, par des associations dans le monde entier, s'apprêtent par des plans qu'ils expliquent lors de leur conférence de formation à diriger le monde en trois étapes, la première étant de, etc. Bon. Ouais. Et là, on est dans des choses extrêmement... des structures extrêmement parallèles.
Eh ben, écoute, je t'invite à revenir dans nos studios quand tu auras mené ton travail sur production
d'écrits. C'est bien volontiers.
Pour en reparler. On peut retrouver l'interview que tu as donnée au site et à la revue en ligne La Vie des Idées, une interview qui a été menée par notre amie Sarah El-Matari, que nous avions invitée d'ailleurs ici même il y a 2 ans. Sur le site La Vie des Idées, vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche La Vie des Idées, René Monza, et vous retrouvez cette interview. Il me reste à te remercier pour cette émission, pour tous les éclairages que tu nous as donnés. Le mois prochain, nous accueillerons le sociologue Juan Sebastián Vial pour nous parler du futur du travail. En fait, il reste encore beaucoup à dire. Nos amis qui vont prendre la parole tout de suite du monde merveilleux du travail ne me démentiront pas. Il reste encore beaucoup à dire sur le travail et les travailleurs. Merci à vous. Vous restez à l'écoute, bien entendu, de Radio Liberté.
Merci pour cette invitation.
Merci, René.
Où est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission des syndicalistes révolutionnaires du secteur du commerce pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme, animée en direct sans retenue ni complaisance, 1er, 3e et 5e lundi du mois, sur nos 8 heures de loisirs quotidiens.
L'édito du lundi 17 juin 2024 du Monde Merveilleux du Travail. Je vais lentement, parce qu'on m'a dit qu'il fallait qu'on gagne du temps. Les journées mondiales de lutte contre la désertification et la sécheresse. Non, notre émission ne sera pas consacrée aux conséquences désastreuses pour l'humanité et les écosystèmes planétaires du capitalisme industriel et du néolibéralisme économique bourgeois. Non, nous recevons Valérie... Et on a le droit de dire les prénoms.
Oui, oui.
Ouais. Et Samuel, bon, au début, c'était pas Samuel. Qui évoqueront la désertification du 393 rue de Vaugirard à Paris, dans le 15e, et la sécheresse du modèle éducatif étatiste et bourgeois qui ne veut plus de l'autogestion dans son univers scolaire. Et parce que le réalisateur Ken Loach fête ses 88 ans aujourd'hui, je le paraphraserai, hein, ce monde dans lequel nous vivons est conduit par des idées que nous appelons néolibérales, qui ont entraîné dans la misère des millions de personnes, avec une petite minorité qui s'enrichit de manière honteuse. Il faut dire qu'un autre monde est possible et même nécessaire. Cet autre monde possible passe par l'éducation des masses, des enfants, des producteurs, et l'éducation en mode d'autogestion était l'une des réalisations les plus prometteuses, me semble-t-il. Ceci expliquant cela, le lycée autogéré de Paris vit un dernier soubresaut, mais il luttera jusqu'au bout, le bougre.
Still September, when your daddy was quite surprised. C'était Steely Dan avec My Old School dans le monde merveilleux du travail sur Radio Libertaire 89.4.
Mégahertz.
Ouais, bah, j'ai pas précisé, mais ça va de soi.
Bah, ce soir, nous recevons nous recevons Valérie et Samuel qui ont tous les deux été au LAP, qui sont au LAP. LAP, c'est les lycées autogérés de Paris. Qui est un petit peu mal en point ce soir. Enfin, ce soir, pas seulement ce soir, mais depuis déjà depuis quelques années. Mais là, ça se concrétise et puis on se dirige vers la fin. Donc, on va peut-être vous laisser vous présenter un petit peu. On commence par qui ? Valérie.
Oui. Bonsoir. Donc, je m'appelle Valérie. Je suis professeure de langue, essentiellement d'allemand, et aussi d'anglais au lycée autogéré de Paris. Je fais ma deuxième année au lycée avec une interruption de 2 années. Donc, j'étais il y a 3 ans pour une année et j'ai été ensuite cooptée en septembre de l'année dernière suite au départ par mutation choisie de la collègue d'allemand. Je suis donc arrivée au lycée en étant très contente d'avoir enfin ce poste que je désirais depuis longtemps. Et en fait, je ne m'attendais pas d'arriver pour vivre la mort et l'enterrement du LAP.
Oui, alors,
Samuel ?
Oui, moi c'est Samuel. Donc, moi je connaissais le LAP depuis une dizaine d'années. J'avais été en contact, j'étais pas mal à leur soirée. Ils faisaient les jeudis du LAP, hein, des formats un peu ouverts sur l'extérieur pour choisir quelques personnes. Et j'ai aussi été pendant 1 an à Saint-Nazaire. Donc voilà, je suis dans le milieu, même si je suis rentré cette année au LAP. Je suis, disons, dans le milieu et dans l'entourage du LAP depuis pas mal de temps. Donc moi aussi, ça faisait un moment que je voulais y rentrer et voilà, et je me suis retrouvé y rentrer. Donc ce qui est maintenant la dernière année, voilà.
Donc c'était vraiment la limite, hein.
C'était la limite, oui. J'aurais pas pu rentrer plus tard.
Et en plus, on l'expliquera plus tard, mais on va être obligé de partir.
Oui. Depuis vendredi, on nous a fait comprendre qu'on était plus désirable. Voilà, par un coup de fil, hein, nos postes ne sont pas renouvelés.
Alors, du coup, le LAP, c'est les enseignants, c'est des enseignants qui ont des activités pédagogiques au-delà de simplement des contenus, hein, des programmes, puisque, bon, ils font de la cuisine, on fait de l'accompagnement d'élèves, hein, c'est des élèves, on peut ça des élèves.
Oui, toujours, ce LAP, sont des élèves.
Des élèves. Du coup, vous êtes plutôt des militants, on va dire ça.
Oui.
Oui, voilà. Il y a d'autres. Le LAP, c'est que des militants ou pas que des militants ?
Le LAP, l'équipe d'enseignants du LAP, ouais, est composée de 25 enseignants. Et historiquement, donc à la création du lycée il y a 42 ans, c'était quand même très très militant. Je suis peut-être un peu trop jeune pour parler de toute l'évolution en 42 ans, mais quand je regarde aujourd'hui, il y avait encore, je dirais la moitié, une grosse moitié de l'équipe qui était militante, courant libertaire. D'accord. Et l'autre moitié qui est pas du tout militante, voire... oui, voire oui. Petit courant, enfin, moi je ne les considère pas comme des militantes.
Oui. Et puis, bon, il faut préciser que le LAP aussi, alors c'est pas simplement, bon voilà, il y a des activités annexes avec les élèves, qui pourraient par exemple faire la cuisine, tout ça, mais c'est surtout la question de l'autogestion, c'est-à-dire le fait que un lycée, et ça c'est la même chose pour Saint-Nazaire, dans un lycée, entre enseignants et élèves, toutes les tâches classiques d'un lycée sont couvertes par par le groupe, par ceux qui y sont. Voilà, il y a pas. Alors il y a depuis quelques années, je sais pas depuis combien de temps, il y a une secrétaire quand même qui aide un peu aux tâches de secrétariat et
un agent technique.
Mais sans ça, il y a pas de vie scolaire, il y a pas de direction, évidemment. c'est autogéré, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de gens pour faire le ménage. Et donc, cette activité autre que le scolaire, c'est aussi une activité de fonctionnement. Mmh. C'est aussi ce qui permet de faire vivre, voilà, d'où le nom autogéré. Et si vous voulez, ce qui a changé avec cette année, quand on parle de militants, c'est que, alors, militants, alors, plus ou moins selon les gens, mais ça a toujours été un choix. Mmh. Ça a toujours été un choix, c'est des gens qui venaient, qui étaient informés de ce qu'était le LAP, c'est ce qu'on appelait la cooptation. Donc les gens étaient informés, étaient reçus par l'équipe, avaient des explications, se présentaient à l'équipe et étaient un peu sélectionnés, choisis par l'équipe entre plusieurs. Voilà. Donc cette cooptation faisait que, alors, bon, pas toujours, disons, ils étaient en général militants de quelque chose. Ça pouvait être plus, donc disons, Valérie a parlé de libertaires, ça pouvait plus être des gens avec à idées pédagogiques, ceci avancé, moins politique, tout ça. Et le truc qui a changé avec cette année, c'est qu'ils ont commencé à faire sauter la cooptation et à recruter des personnes en un coup de fil. C'est les inspecteurs qui recrutaient en appelant quelqu'un, disant, ah, il y a une place là, ouais, c'est un truc un peu zarbi, mais si ça vous plaît, allez-y. Et donc, on s'est mis à avoir des gens qui étaient parachutés et qui débarquaient sans aucune connaissance du lieu. Sans...
Avec un profil éducnat, enfin, recruté selon le mode CAPES agrègue, enfin, j'imagine.
Pas forcément. Justement, dans ceux qui ont été parachutés cette année, parce que donc on a justement été l'année où ça a basculé, où la cooptation a été supprimée. Il y a eu différentes manières de recruter, c'est-à-dire que Samuel et moi, par exemple, on a été cooptés. Donc, avant la fin de l'année scolaire, l'année dernière, on a été reçus par l'équipe et l'équipe a voté selon la procédure en cours depuis toujours au lycée. Et donc, on votait pour nous. Et par contre, la nouveauté, c'est qu'on a dû être reçus tout de même par les inspecteurs de nos matières. J'ai été reçue par l'inspecteur en allemand, Samuel par son inspecteur en histoire-géographie, ce qui n'a jamais eu lieu auparavant dans le recrutement et la cooptation du lycée autogéré. On a donc aussi eu des candidats qui ont été cooptés par l'équipe, mais qui n'ont pas été validés par leurs inspecteurs suite à ces entretiens. On s'est battu, mais...
Donc, pardon, ça c'est déjà une nouveauté par rapport à l'ancien fonctionnement qui voulait que... Avec la cooptation, vous entriez en fonction, si je puis dire, dès la rentrée au milieu de l'équipe. Quoi.
Donc ça, c'est le gros changement l'été dernier. Donc il y a eu plusieurs collègues qui ont été cooptés par l'équipe et qui, à l'issue des entretiens avec leurs inspecteurs, n'ont pas été validés et n'ont pas pu travailler au lycée. Donc c'est... personnes-là, leurs postes ont été occupés par des personnes parachutées, comme dit Samuel, envoyées par le rectorat. Pour certains, la majorité, oui, ce sont des contractuels, mais il y a aussi des titulaires qui ont été envoyés. Et moi, je souhaiterais revenir sur le côté, est-ce qu'on est tous des militants ou pas ? J'aimerais bien rajouter que j'ai l'impression que depuis quelques années, même les personnes cooptées, les candidats du côté des enseignants, ne viennent plus forcément pour le côté politique, mais pour certains, pour le côté pédagogique. Moi, par exemple, j'ai clairement postulé au lycée autogéré de Paris pour le côté politique et autogestionnaire, et pas pour le côté pédagogique.
Mais c'est peut-être aussi à la base un dissociable, c'est-à-dire qu'il y a un projet politique qui est associé à un projet pédagogique d'un type particulier et inversement, non, c'est pas, c'était pas le ce qui
pour moi, oui.
C'est ce qui conduisait le projet du LAP, l'association des deux.
Ce qui est dissociable, c'est par exemple avec des formes de didactique, de techniques pédagogiques, d'innovation pédagogique, genre on va mettre les tables en rond, tout ça. Bon, c'est pas le truc du LAP, ces choses-là, quoi. Mais oui, c'est, je pense, pour moi, l'autogestion et ce projet politique est aussi un projet pédagogique.
Surtout si on regarde quand même un des trois piliers, parce qu'en fait, les trois piliers du lycée autogéré de Paris ont toujours été la cooptation des enseignants, l'autogestion et la libre fréquentation des élèves. Aujourd'hui, ces trois piliers sont tous les trois supprimés. Mais justement, si on regarde le pilier de la libre fréquentation, ça signifie qu'en fait, les élèves ne sont pas sanctionnés s'ils ne viennent pas en cours. Parce que dans un lycée classique, un élève qui ne vient pas en cours, c'est noté sur Pronote, c'est relevé. Oui. Les parents, si les mineurs reçoivent dans les 5 minutes un SMS indiquant que l'élève n'est pas en cours et qu'il faut urgemment justifier son absence. Ça n'a pas été le cas chez nous. Donc un élève qui décide de ne pas venir en cours n'est pas sanctionné. Un élève qui choisit son emploi du temps et qui va prioriser certaines activités à d'autres peut le faire librement. Un élève qui décide sur un cours de 50 minutes de partir au bout de 20 minutes parce que ça le fatigue n'est pas mal vu, sanctionné non plus. Et donc c'est là où je vois un lien aussi avec, ça mène forcément à une pédagogie qui va être différente qu'ailleurs aussi.
Bien sûr. Et donc là, il y a vraiment un changement, c'est-à-dire que vous êtes déjà les premiers témoins de ce changement où il y a quand même l'inspecteur qui arrive derrière et qui... vous avez un entretien finalement, une espèce de l'absolution ministérielle, si je puis dire, ou rectorale.
Alors l'entretien...
ça fait pas trop mal.
Ça dépend, c'est variable. Puisque moi, c'était l'un des premiers, disons, petits travaux que j'ai fait hors enseignement, tout ça. Ça a été de recenser, de rassembler des témoignages sur tous les gens qui avaient passé des entretiens.
D'accord.
Et donc, tous les entretiens avec inspecteurs, ce qui s'était bien passé, mal passé, tout ça. Et en fait, on s'est aperçu, en faisant ce travail, que c'était extrêmement variable. Et à quelques cas près, ce qu'il y avait quand même une unité qu'on pouvait trouver, c'est la méconnaissance totale du lieu par les inspecteurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui... Moi, je sais que, par exemple, j'ai passé un an à Saint-Nazaire, donc on était censé étudier mes capacités à entrer dans ce lieu-là et à bien y fonctionner. Donc, j'ai passé un an à Saint-Nazaire, donc lieu assez proche comme ça. Ça n'a absolument pas intéressé mon inspectrice. Elle m'a pas posé la moindre question sur Saint-Nazaire. Elle m'a posé des questions sur les établissements que j'avais fréquentés dans le Nord 93, puisque elle aussi avait travaillé dans la zone, elle était très contente de dire « Ah, le lycée Machard, ah ben je connais, c'est au métro truc !» Voilà, et donc, il y a eu beaucoup plus ce genre de choses, et d'autres qui ont dit des choses, des contre-vérités complètes sur... Et en fait, une grande impréparation de ces gens qui... et donc, avec... Nous, si on n'avait pas eu l'équipe, tout ça, un certain nombre d'entre nous auraient pu croire qu'ils travaillaient 18 heures, certains qui travaillaient 18 heures, certains, voilà, tout, un peu tout et n'importe quoi.
Alors moi, je rajouterais quand même que lors de ces entretiens, qui étaient donc complètement nouveaux l'été dernier, parce qu'en effet, ce qui a été annoncé en fin d'année scolaire il y a un an, c'est que la cooptation était suspendue. On ne savait pas encore qu'elle serait finalement supprimée définitivement cette année. Donc elle était suspendue et donc on a dû être reçu par nos inspecteurs. Et quand je reviens aux collègues cooptés qui ont été finalement refusés à l'issue de ces entretiens, pour lesquels on s'est battu, on a essayé vraiment de bloquer, de dire que, enfin, de maintenir la cooptation et dire qu'on voulait vraiment ces personnes-là qui, elles, avaient choisi le lycée et qui avaient été aussi choisies par l'équipe. Quand on regarde un peu leur profil, parce qu'en fait, on a demandé des motivations pour lesquelles, savoir pourquoi elles ont été refusées. On n'a jamais eu de réponse. Ça bottait en touche. Et en fait, quand on regarde un peu leur profil, ce sont aussi des personnes militantes. Et en fait, ça, c'était déjà une petite annonce de ce qui se passe là depuis une semaine où ça s'est fortement accéléré.
Ce qui veut dire qu'en fait, il y avait cette idée éventuellement d'écarter tout militantisme dans les profils de recrutés.
Ça commençait, on l'a pressenti à ce moment-là. Et puis, bon, il y a toute une année qui s'est écoulée, mais là, depuis une semaine, on en a la confirmation.
D'accord. Et le fait, ces entretiens, alors moi, je, ces entretiens pas préparés, finalement. Enfin, moi, je suis un patron d'entreprise, je me dis que c'est un manque de professionnalisme. Mmh. Oui. Je veux dire, quand on arrive et qu'on est supposé être inspecteur d'éducation nationale, on est supposé connaître à la fois le référentiel, enfin les référentiels des différents niveaux enseignés. On est censé connaître l'établissement, les spécificités éventuellement, parce que là il y avait de réelles spécificités. Tout ça, vous, à aucun moment vous n'avez eu l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui maîtrisait tous ces, alors le référentiel j'entends bien, mais maîtrisait le l'aspect à la fois local, sociologique, historique.
Oui, alors dans les, moi quand j'ai fait le, j'ai regroupé l'ensemble des entretiens, je pense c'est arrivé avec un ou deux inspecteurs qui avaient un peu quand même une idée.
Oui.
Alors le mien non.
C'était, la mienne non, pas du tout.
Moi,
c'était
ça
truc.
Fait deux noms. Hein, là, je...
voilà,
le mien a commencé de parler de postes à profil en disant maintenant la cooptation est suspendue, donc les postes au LAP deviennent des postes à profil.
Oui, c'est des mots de langage, ça. Hein.
Sauf que du coup, en fait, je me suis rendu compte que le profil, il ne le connaissait pas parce qu'il m'a quand même demandé à un moment s'il y avait des vraies matières au LAP.
D'accord.
En fait, à un moment, il avait. J'avais l'impression qu'il croyait qu'au lycée autogéré de Paris, eh ben, il n'y a pas de vraies matières, on n'a que des. Des activités pédagogiques qui n'existent pas ailleurs, et puis on fait un peu ce qu'on veut. Et quand je lui dis, on prépare les élèves au bac, et puis nous sommes des vrais profs qui enseignent des vraies matières, il avait l'air un peu surpris.
En même temps, c'est pas parce qu'on n'est pas un vrai prof qu'on n'a pas une liberté dans sa façon de, d'aborder à la fois les référentiels qui sont parfois curieux, les méthodes pédagogiques aussi contestables les unes que les autres parce que c'est qu'un en fait c'est qu'un prisme on entre dans le moule donc on est bien noté si on s'en écarte un pas on est forcément pas compris donc on est mal vu mais du coup il y en a pas un à un moment donné qui s'est investi en disant oui, c'est un projet intéressant où parmi tous les échos que vous avez pu avoir, où ils étaient tous dans l'idée que de toute façon, on est envoyé là pour faire le ménage. Je caricature. Hein. On est là pour faire le ménage et que les militants comme les autres vont venir changer et on va avoir des postes à profil. Ce qui veut dire bien des choses, parce qu'un profil, c'est le profil donné par les critères du ministère, et non plus en fonction du projet politique et pédagogique qu'on veut mener dans un établissement donné, avec toute son originalité. Hein.
Oui, alors c'est pas la définition du poste à profil, ça ne devrait pas être ça, mais de toute façon, justement, le poste à profil serait censé s'adapter à un cas particulier.
Mmh, bien sûr.
Mais de toute façon, on s'est aperçu que poste à profil, tous ces termes-là, c'est des choses qui recouvraient un peu des décisions arbitraires. C'est-à-dire que le poste à profil, on nous a dit, la cooptation est suspendue, ça va être des postes à profil. Sauf que les postes à profil, ça demande une candidature avec une publicité. Il y a des délais, il y a des dates pour les recruter, les postes à profil.
Oui,
et ils n'ont absolument rien respecté de tout.
D'accord.
Ça. Et le profil, ils ne l'ont jamais. Jamais personne n'a vu le profil.
Il n'a pas été défini, peut-être.
Il n'a jamais été défini, le profil. Et donc, moi, par exemple, je suis tombé. Alors, comme je dis, quelqu'un m'a dit.
Avais-tu le profil?
Non, alors moi j'avais assez moyennement le profil, ça a été un peu délicat, mais donc quelqu'un m'a dit, il semblerait qu'il y ait une inspectrice qui était un peu plus comme ça, mais sans ça, moi j'avais l'impression d'être à un entretien d'embauche lambda, me retrouver dans la peau d'un contractuel qui veut rentrer, faire des heures à l'éducation nationale et qui tombe face à une inspectrice... qui juste rajoute, comme elle ne sait pas quoi dire, elle a voulu que ce soit moi qui parle, donc elle me disait, alors pour vous, c'est quoi l'innovation pédagogique? Voilà, et donc, et ça, ils ont utilisé cette technique assez souvent. C'est quoi l'innovation pédagogique ou avec d'autres, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez comme projet pédagogique? Et puis alors les personnes disent, ah ben c'est ceci, c'est cela. Mmh. Ils disent, bah, ça c'est pas un projet pédagogique.
Oui.
Alors, ah ben ouais, alors je pourrais faire ça. Ah mais ça c'est pas un projet pédagogique. Mmh. Et puis à la fin, alors excusez-moi, bah, je sais pas. Est-ce que vous pourriez me définir ce qu'est un projet pédagogique? Ben on va passer à autre chose maintenant. Donc voilà, et donc voilà, c'était des façons de jamais... Et ça, ce qu'il faut voir aussi, c'est l'importance de ce moment-là. Ça, c'était le début de l'année. Mais c'était donc avec la question des profs cooptés qui n'ont pas pu venir. Mm-hmm. Ça a été notre premier combat. Mm-hmm. Et en fait, on s'est retrouvé toute l'année avec un enchaînement de choses comme ça. Puisque quand c'était plus ça, bah, on s'est aperçu, il y a eu la question des heures. C'est-à-dire
sur les profs cooptés, il n'y en a aucun qui a réussi parmi ceux qui étaient intéressés parce que voilà, il y a une démarche hein, quand vous allez, vous c'est une démarche, j'ai bien compris que c'était une démarche politique et pédagogique personnelle d'intégrer le LAP, et il n'y a aucun de ceux qui avaient cette démarche identique à la vôtre qui n'a été finalement retenu.
Bah, si, il y a nous déjà.
Si, il y en a d'autres qui. Alors, il y a quand même eu un gros renouvellement de l'équipe l'année dernière. D'accord. D'une part, parce qu'il y a eu beaucoup d'enseignants qui sont partis, qui ont quitté le lycée l'année dernière par leur volonté. Et il y a eu aussi des départs à la retraite et des mutations. Donc, ce renouvellement d'un tiers, en fait, de l'équipe, à peu près.
C'est énorme, ça.
Oui. Mmh. Et ben, on n'est pas les seuls à avoir été cooptés. Il y en a d'autres à qui la cooptation a été accordée. Mais je n'ai plus en tête, il y en a combien qui ça a été refusé? Trois?
Trois, oui, je crois que c'est ça.
Ouais. Ouais.
Et vos collègues qui ont été finalement retenus, est-ce qu'ils ont le même profil que vous? Ce militantisme, ce... Ah, je sais pas, je pose une question.
Je
suis l'innocence.
pas vraiment, sauf une.
Oui, assez, oui. Oui, il y en a une qui est un peu moins sur le même registre. Donc, de toute façon, la cooptation, quand on parle avec ceux qui sont depuis plus longtemps, c'est une protection, c'est pas une garantie. C'est puisque de toute façon, c'est quand même quelque chose qui se passe. Voilà, les gens vont avoir une discussion un peu longue. Va y avoir des choses comme ça. La personne est prévenue, tout ça. On connaît pas quelqu'un vraiment. C'est pas.
Et surtout, si le lycée se retrouve dans cette situation aujourd'hui, on parle beaucoup du rectorat, mais ce n'est pas que de la responsabilité du ressort du rectorat. Quand même des choses qui se sont passées l'année dernière et des professeurs qui avaient été cooptés, qui pour certains sont restés un certain nombre d'années et qui avaient été choisis et où en fait on se rend compte que c'était que l'équipe s'était quand même bien trompée ou n'avait pas pressenti cela.
D'accord, ça fait écho à ce que tu viens de dire, à savoir un entretien en quelque sorte de peut-être je sais pas d'une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, on n'arrive pas toujours à déceler le fond de l'âme de la, si je puis dire, de la personne. C'est difficile, hein.
Bah oui, c'est normal. C'est pour ça que il fut un temps, alors ça a été supprimé pendant un certain temps, le LAP, il y avait une cooptation en deux fois.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y avait une première cooptation qui était suivie par une confirmation au bout d'un an de cette cooptation, quoi. Bon, alors après, qui était pas non plus, puisque c'était humainement très difficilement tenable, c'était pas...
En même temps, ça ressemble énormément à la... Lorsqu'on passe un concours et qu'ensuite on est titularisé parce qu'on a été étrié pendant un an et que finalement on fait l'affaire ou pas.
Oui, voilà. Non, c'est pour ça que c'était pas satisfaisant non plus. C'était bon, voilà. Ça, puisqu'il y a toujours eu aussi des motivations un peu annexes de certaines personnes. Ça, c'est toujours arrivé. Disons des gens qui ça faisait bien dans certains parcours d'être passé par le LAP, des choses comme ça, des gens sur le lieu, travailler à Paris. Bon, voilà, ça a toujours un peu existé ces choses-là.
Des carrières, quoi.
Oui, des carrières.
Des plans de carrière, si je puis dire.
Donc, oui, ce que je disais, là, voilà, j'avais commencé, c'est que c'est ça, c'était la première phase d'une succession qui ne nous a jamais quittés, puisque ça s'est enchaîné après. Donc, il y a toujours eu un truc. Donc, déjà, essayer de que les cooptés aient leur poste. Après, bah, ils nous ont fait le coup de... là, bon, c'est un truc un peu technique, c'est-à-dire qu'entre y a deux types de profs agrégés et certifiés dans les titulaires qui ne doivent pas le même nombre d'heures.
15 et 18.
15 et 18, voilà. Et il y a des agrégés qui étaient venus, qui étaient partis, et ils n'ont pas fait, ils n'ont pas mis au niveau pour les agrégés qui les avaient remplacés, les certifiés qui les certifiaient. Donc ça fait qu'il y a plein de gens qui se sont retrouvés en temps partiel. Directement. Ah, donc ils avaient un poste 18e, en temps partiel.
15-18.
Voilà, ils étaient à 15-18.
Moi, par exemple, je suis dans le cas concret, je suis certifiée, donc je suis censée ailleurs qu'au lab faire 18 heures. Nous, au lab, on en fait tous plus parce que c'est un choix. Mais du coup, sur mon état de service, cette année, toute année, il y avait marqué 16 heures parce qu'il n'y avait que 16 heures accordées en allemand au lycée autogéré. Donc théoriquement, j'aurais pu me retrouver à compléter ces heures-là en faisant 2 heures de plus ailleurs. Évidemment que c'est compliqué de trouver 2 heures avec, en plus, comme en réalité j'en faisais 25, mais j'aurais pu me retrouver dans ce cadre-là.
Donc voilà, il y a eu ça. Après, on a enchaîné sur le fait que, une fois ces histoires de 15 heures, voilà, on a enchaîné sur le fait qu'on s'est aperçu que notre argent n'avait jamais été versé, qu'on n'allait plus avoir de chauffage, tout ça, puisque le budget... Oui, j'arrête juste après. Puisque le budget de l'année a été versé en novembre. Voilà, et donc ça s'est toujours enchaîné, quoi.
D'accord. On va revenir sur ces péripéties.
Après la pause musicale. Yeah.
Vous êtes à l'écoute du Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire 89.4. Et c'était, alors attendez que je prenne mon élan, Flower Traveling Band. Et c'était le morceau Oh, Give Me Air.
Voilà, c'est un groupe japonais. Mais Samuel, ça ne lui a pas échappé. On s'en fout, c'est un groupe japonais.
Ah oui, non, non,
bien sûr. Connu, ça. Oui. Très déçu de Samuel, je pensais qu'on allait avoir une pointure de... Eh ben non, il ne connaît pas.
Voilà. Je ne l'ai même pas écouté. C'était une fonte à savonnette. Là.
Il aurait pu connaître Flower Traveling Band. Alors je ne dis pas avec l'accent, comme la technicienne qui nous est revenue, parce qu'elle nous a quittés la semaine dernière.
Oui. Je vous ai fait des infidélités.
Voilà. Et du coup, Michael n'est pas venu, lui.
Ouais. Est-ce un hasard? Je me pose des questions.
Il ne doit pas pouvoir te blairer, c'est pour ça. Ouais. Donc ce soir, nous recevons Valérie et Samuel pour une émission consacrée au lycée autogéré de Paris. Et on va vous laisser reprendre le fil de la discussion. Hein, Eric?
Ben oui, mais on était... Parce qu'on a une petite discussion off sur les anciens titulaires académiques. Enfin bref, ça n'a pas forcément intéressé nos auditeurs dans le détail technique de la chose. Ah, c'est bien, il est gentil avec moi, avec mon micro. Après cette phase de sélection, vous êtes retrouvé aujourd'hui, vous êtes en 50-50 entre les militants et puis ceux qui sont moins.
On l'était, ouais. On a été très très fragilisés là, parce qu'en fait, ouais. Le lycée a fait l'objet d'une enquête administrative. À partir du mois de septembre, où plus de 70 personnes ont été auditionnées, donc tous les professeurs de l'année dernière.
Qu'est-ce qui a motivé cette enquête administrative ?
Alors, ça fait des années que le rectorat vise le LAP pour essayer évidemment de mettre un terme à l'autogestion et peut-être plus que ça. Et l'année dernière, donc l'année scolaire 2022-2023, il y a une histoire interne au lycée qui a divisé l'équipe en deux. Donc cette histoire a été signalée, une histoire de VSS qui a été signalée par une partie de l'équipe au rectorat, qui a fait une remontée, alors que ce n'est pas dans les habitudes de première réaction au sein d'une équipe cooptée et en autogestion. Donc ça a mis une grosse coupure dans l'équipe et un conflit qui dure depuis et dont on paye lourdement les conséquences.
C'est-à-dire que le rectorat s'est engouffré dans cette
brèche.
Il s'est saisi donc, et puis de gens qui ont déposé un certain nombre de plaintes, et donc
non, pas
un
des
gros
plaintes.
des plaintes qui se sont plaintes au rectorat, voilà. Donc, et qui ont fait rentrer le loup dans la bergerie sur cette question de VSS, sur lequel le rectorat n'a absolument rien fait en 2 ans. Hein. Ça ne l'a pas du tout intéressé. Par contre, il a tout détruit après, systématiquement, qu'il avait un pied...
Peut-être rappeler aux auditeurs, aux auditrices, ce que c'est que VSS, les violences sexuelles.
Oui, donc en fait, toutes les conséquences qu'on subit depuis le mois de septembre n'ont absolument rien à voir avec ça, parce que là, ce sont donc des non-reconductions, on en parlera dans quelques instants, d'affectation, de contrat, etc. Donc, pour revenir à cette enquête administrative qui a donc été lancée en septembre, où tous les enseignants de l'année dernière ont été auditionnés, des élèves ont été auditionnés, des parents ont été auditionnés au rectorat, enfin par le ministère, c'est même pas par le rectorat, c'est par le ministère. Et on a eu la réponse, la conclusion du rapport au mois de février. Ça nous a été annoncé en AG, donc devant tout le lycée. Et c'est le DAZN du second degré qui est venu l'annoncer et qui en même temps a annoncé la suspension de 4 collègues en poste.
Voilà, suspension pour 4 mois de 4 membres de l'équipe.
Avec, donc, conseil discipline pour l'un d'entre eux.
Voilà.
À la clé. Et donc, quand je dis que notre équipe est fortement fragilisée, ce sont 4 personnes qui étaient au lycée depuis très, très, très longtemps et qui nous ont été enlevés du jour au lendemain, qui ont été enlevés aux élèves et qui ont été remplacés immédiatement par des personnes envoyées par le rectorat. Donc le rectorat était prêt.
Mais là, on n'a pas fait jouer la cooptation. Non. Et puis savoir si on voulait bien de ces personnes, si c'était bien adapté effectivement au projet pédagogique initial.
Oui. Du LAP. Donc le, c'est des gens qui ont été trouvés un peu en urgence, balancés là. Résultat, du fait des départs de l'année dernière, tout ça, plus cette répression, tout ça, on est arrivé très vite à ce qu'une moitié de l'équipe soit là depuis un an. Ouais. Voilà, sur 25, on avait quasiment que des nouveaux. Et donc, pas mal de gens qui étaient venus, et dont une grande majorité, donc, avec Valérie et moi, on nous fait partie, quelque part, de ces nouveaux, mais qui avaient un lien avec la structure qui la connaissait. Valérie avait déjà fait un an avant, des choses comme ça. Mais des nouveaux, et donc, et aussi des gens très nouveaux, même dans le métier d'enseignant. On a aussi reçu des gens très jeunes qui avaient fait une année ailleurs, des choses comme ça, quoi, et qui débarquaient dans un milieu, dans un lieu en crise, avec des trucs très complexes, des tensions, et qui n'étaient pas du tout prêts à ça.
Mmh. Voilà. C'est très étrange quand même cette réactivité du ministère à affecter, alors que moi j'ai des établissements où je travaille aux alentours où ça couine parce que ça fait 3 mois qu'ils sont pas de prof de français, que ça fait le prof de SVT, il est malade depuis 6 semaines, il n'est pas remplacé. Enfin, là, du coup, ils sont vite. Ça a été remplacé.
Oui. Alors ça, tous nos remplacements, c'est la seule chose qu'on peut dire.
Non, parce que justement, l'exemple que tu cites, Eric, ça s'est avéré aussi pour des arrêts maladie qu'on a eu cette année. D'accord. On a eu 2 arrêts maladie qui dépassaient les 2-3 jours, donc des arrêts de plus de 2 semaines, vu qu'ils font un remplacement au-delà des 2 semaines. Eh ben, on n'a pas trouvé. Il y en a une qui a été remplacée qu'au bout de quelques mois, et l'autre n'a pas été remplacée tout court avant son retour parce qu'on n'en trouvait pas. Donc il y a quand même aussi cette différence. D'accord. Quand il y a vraiment un arrêt maladie, on trouve personne, alors que les suspensions, elles étaient prévues, et puis on n'a pas eu un jour entre les suspensions. En fait, la suspension a été annoncée le vendredi précédant les vacances de février, et le lundi suivant, on avait les nouveaux qui étaient là.
Voire même la suspension a été connue par un coup de fil d'un service du rectorat qui parlait déjà des remplaçants de collègues qui étaient en place. Il dit, c'est pour le remplaçant comme ça. Il est là, il travaille. En quoi il a besoin d'être remplacé?
Il va être malade.
Il va être malade bientôt. Il va lui arriver un truc, je vous le promets.
Mais que faites-vous du service de la prospective et puis des études du ministère? Franchement, là, c'est brillant.
Non, ils sont très, très forts.
Oui, donc, ça veut dire que tout ça a été. Ça, c'est moi qui dis, mais je le pense, donc je dis ce que je pense. C'est une machination. Donc tout ça a été. C'est un remplacement immédiat, savoir que ça avait été prévu. Tout ça a été orchestré. Et la preuve, c'est que lorsque vous avez un collègue malade ou en arrêt de travail, lui, en revanche, là, c'est pas prévu. Donc ça suit le cours habituel du ministère où on traîne jusqu'à ce qu'il y ait des émeutes chez les parents d'élèves.
Il y a là-dedans aussi un détournement de procédure systématique. C'est que, par exemple, ces suspensions sont des suspensions conservatoires qui sont censées être... il y a une crise comme ça, je sais pas, il y a des gens qui se battent, on suspend, sans juger sur le fond, pour protéger les personnes, quoi. On verra après sur le fond. Donc, ils ont utilisé ce procédé-là, donc qui n'est pas considéré comme une punition, vu que c'est conservatoire, tout ça. Ils l'ont utilisé pour des gens à propos de faits qu'on leur reprochait un an avant. Et puis, pour toute l'année qui s'est écoulée, eux, ils pouvaient venir au lycée, comme ça, et puis c'est d'un seul coup, à la veille des vacances, je ne sais plus, de février, un truc comme ça, la veille des vacances de février, ça y est, c'était dangereux pour eux de venir, et paf, après...
Oui, parce que, on parlait de cette histoire de VSS qui a été le déclencheur pour le rectorat, mais en fait, je reviens aux suspensions, Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Donc les quatre codex suspendus ont des motifs bien différents et qui sont des motifs en fait très politiques. Donc c'est masqué, ça va pas être, on peut pas suspendre officiellement quelqu'un
Est-ce que c'est légal?
Ah, ce sera
parce que les motifs politiques, c'est de l'ordre de la conviction propre de la.
Oui, alors c'est évidemment
de l'intime.
C'est évidemment pas présenté comme des motifs politiques. Ils vont trouver un certain nombre de prétextes. Évidemment aussi, ces mesures vont être contestées, mais c'est le problème de la contestation des mesures du rectorat. Mmh. C'est que la contestation, ça veut dire se tourner vers le tribunal administratif. Mmh. Et le tribunal administratif, on pourra peut-être, même on l'espère avoir raison, mais ce sera dans 2 ans.
D'accord.
Et tout aura été fait, quoi. Et ça nous fera une belle jambe. Voilà, ce sera une petite revanche, mais ça n'arrêtera pas le rouleau compresseur.
Et après, on voit en fait que ces quatre personnes ont été suspendues, parce qu'ils ont essayé de trouver le motif pour les suspendre et les sortir de l'équipe immédiatement. Mais évidemment, ils ne pouvaient pas suspendre la moitié de l'équipe. Donc là, on voit, depuis le mois de février, surtout depuis 10 jours à peu près, comment ils procèdent avec le reste. Parce que nous, on était quand même, ça faisait un moment qu'on était dans les starting blocks à se dire, OK, quand est-ce qu'ils vont se débarrasser de nous et comment ? Parce qu'on a quand même bien senti que la moitié de l'équipe ne leur plaît pas et qu'on est solidaire d'une part avec nos camarades qui ont été suspendus et qui, pour certains, ont donc des mesures disciplinaires. Et là, ça y est, avec le nouveau, parce que du coup, le LAP ne sera plus le LAP, ça on le sait depuis l'annonce de la conclusion du rapport de l'enquête administrative. Et on sait depuis quelques semaines que ça sera le LIP.
Le LIP, sans faire d'analogie...
On supprime l'autogestion, mais...
Ouais, c'est un clin d'œil, franchement, c'est un peu osé.
Osé, mais pour le rectorat, le LIP, c'est le lycée innovant de Paris.
Voilà, ça c'est un programme.
Oui.
Vive l'innovation.
Avec donc plein de changements.
Bah oui. On innove, alors forcément.
Suppression des trois piliers. De l'autogestion, cooptation et libre fréquentation. Et là, donc, ils continuent à éclater l'équipe et ils y sont presque.
Alors oui, et plein de changements. Alors précisons quand même que le LIP, pour le moment, est un espèce de truc très indéterminé, hein, puisque, voilà, il y a tout ce qu'ils détruisent. Alors ils ne veulent pas d'autogestion, ils ne veulent pas de trucs, mais il y a des flous absolument partout. Il y a plein de choses où ils se contentent de dire, vous ferez différemment. Voilà, puisqu'il faut que ce soit innovant. Donc, alors c'est quoi être innovant ? C'est faire différemment. Voilà. On voit très bien le plan de destruction du LAP. Le plan de construction du LIP reste beaucoup plus mystérieux, quoi, jusqu'à présent. Ce qui fait que, disons que pour un certain nombre d'entre nous, disons l'hypothèse que ce soit en fait une fermeture à 2 temps. Qui pour pas fermer brutalement dire hop on arrête tout, il crée une pseudo réforme, un LIP, et ils en sortent un canard boiteux dont on verra bien qu'il fonctionne pas du tout et que là ce sera plus facile de dire voilà puisque le LAP avait une certaine histoire, avait tout ça, des gens pour le défendre, le LIP n'aura personne, hein, très clairement. Et voilà, donc ça c'est une hypothèse qui est tout à fait
recevable.
Voilà. Okay.
En même temps, on a vu concrètement cet après-midi, on a appris que sur les inscriptions de l'année prochaine, il y a 10 d'élèves de seconde qui sont inscrits. Alors que normalement, on est censé en avoir 75. On a la place pour ouvrir 3 classes de seconde. Il y en a 10 qui sont inscrits. Donc ça montre aussi que ce nouveau projet ne plaît pas aux parents, aux élèves et que...
Est-ce que vous allez avoir un nouveau fléchage? Parce que 10 élèves inscrits, mais 10 élèves qui s'inscrivent sur la base du LAP, pas sur la base du LIP.
Ah non, parce que la base a complètement changé. Historiquement, le LAP a toujours accueilli des élèves qui venaient des trois académies de l'Île-de-France. Donc certains élèves venaient de très loin, parce que l'autre bout de l'Île-de-France, ça peut être 2 heures de trajet. Les élèves n'avaient pas besoin d'avoir un passage en seconde générale. Donc il y a eu beaucoup d'élèves qui ont été déscolarisés, qui ont fait l'instruction en famille, ou qui ont fait des phobies scolaires. Pas que, hein, on a aussi beaucoup d'élèves qui ont été au collège jusqu'à la troisième, qui ont eu leur brevet, mais c'était pas une nécessité pour le lycée. Et là, dans le projet du NIP, il a clairement été annoncé que les élèves doivent résider à Paris, donc ça élimine quand même beaucoup de profils, et qu'ils doivent avoir le passage en seconde générale validé, ce qui écarte aussi tous les profils d'élèves qui ont eu des difficultés scolaires, ou qui ont été déscolarisés, parce qu'ils n'auront pas ce passage validé par le principal, enfin le chef d'établissement du collège, en fait.
Qui, eux, réclament une pédagogie différenciée, enfin, je veux dire, avec une approche autre, peut-être, que celle classique des lycées.
Une approche autre, ouais. et puis finalement, des gens qui sont retrouvés, par exemple, il y a aussi le cas de gens envoyés dans des filières professionnelles qui leur plaît pas par écrémage scolaire. Et qui, en fait, le lycée, le collège leur a pas convenu, tout ça, et qui ressentent une injustice et qui se disent que, bah, pourquoi je ferais pas du général, moi, pourquoi je suis mis dans telle formation professionnelle, et c'est quelque chose que permettait le LAP. Je voulais de dire, bah, voilà, t'as été envoyé dans le professionnel, bah, au LAP, tu repasses en général, et puis voilà, et on ne demandera rien, tu feras, c'est à toi de mener ton parcours, quoi, c'est cette,
et la suppression de la libre fréquentation aussi. Pour des élèves décrocheurs ou qui ont vécu des traumatismes, des phobies scolaires, et ben renouer avec l'école, ça passe souvent par justement la libre fréquentation. Le fait qu'ils y retournent petit à petit, qu'ils choisissent les activités qui leur plaisent, ça peut être un passage avant de finalement être complètement à l'aise.
Ouais, c'est maintenant restructuré, quoi.
Ça a été clairement supprimé par le rectorat, donc je pense que c'est aussi ça peut être une explication pour le petit nombre d'élèves inscrits pour l'année prochaine. Parce qu'en fait, finalement, à part un lieu un peu différent, un peu cool, avec des tags sur les murs et un peu de liberté, ça se rapproche quand même beaucoup maintenant de ce que les élèves, en fait, retrouvaient dans tous les autres établissements et qui ne leur plaisaient pas ou ne leur convenaient pas.
Oui, puis l'autre truc, c'est que le projet n'est pas défini et... La grande purge qui a été accomplie, donc maintenant qui arrive au bout, sort tous ceux qui étaient avaient une certaine fidélité, étaient sur le plan du LAP, qui était en fait la seule pensée un peu structurée. C'était l'équipe restante. Alors je dirais pas que tous n'ont aucune idée de la pédagogie, mais ils ont chacun un peu la leur. Il y a chacun sa petite marotte, tout ça. Et puis, il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas la moindre idée, pas la moindre... Voilà, et donc, il n'y a plus, même dans l'équipe, même dans ceux qui restent, il n'y a plus aucun courant, aucun... c'est des individualités un peu éclatées, des fois un peu intéressées, des fois intéressées par la pédagogie, de façon très différente, et puis des fois même pas du tout. Je veux dire que, par exemple, très clairement, le truc de sélection, fallait pas contester, fallait pas montrer son soutien au LAP, fallait pas montrer son soutien aux collègues.
C'est pour ça qu'on se retrouve maintenant.
C'est pour ça qu'on se retrouve maintenant dehors. Le reste, montrer aucun intérêt pour l'éducation, tout ça, ça passe. Ça passe. Il n'y a aucun souci avec.
Donc le rectorat est vindicatif.
Oui, c'est pour ça qu'on dit que si vous voulez, le plan de destruction est très clair, le plan de construction, qu'est-ce qu'ils veulent construire, comment, et tout ça, puis même, par exemple, disons que le rectorat disait, donc avait un espèce de cadre, mais qui était très flou, qui laissait plein de choses à organiser, et ces derniers temps, on était censé préparer ce projet, tout ça. Et ils ont lancé l'opération, s'est retrouvé, bah voilà, avec les coups de fil, un peu les dix petits nègres, voilà. Ah bah tiens, il y en a un de moins. Ah, puis on appelle, il y en a un autre de moins. Donc voilà, imaginez le cadre pour faire
un projet. Peut-être qu'on précise en fait, pour que ce soit un peu plus clair.
Pour nos auditeurs.
Oui. comme du coup la cooptation est définitivement supprimée, eh ben, il nous avait déjà été annoncé il y a quelques semaines que ça sera donc on a de nouveau parlé de ces fameux postes à profil. Mais on a eu deux réunions, parce qu'il faut quand même aussi rajouter que le lycée est rattaché à un lycée dans le 13e, le lycée Jean Lursa. Donc c'est le lycée de rattachement où en fait il y a une proviseure qui doit quand même signer pas mal de choses pour nous. Il y a un gestionnaire, tout ce qui est le budget. Maintenant ça passe par.
C'en est fini de l'autonomie administrativement. C'en est fini de l'autonomie.
Et là elle va clairement devenir, en plus d'être chef d'établissement de son lycée, elle va en plus être la proviseure du lycée autogéré à distance.
Voilà, c'est-à-dire
qu'avant,
ils avaient déjà un petit rôle administratif. Par exemple, bon, voilà, on n'avait pas de comptable, nous. C'était la comptabilité devait passer par.
Donc, il y a eu deux réunions qui ont eu lieu, et la troisième, donc aujourd'hui, au lycée Jean Lursa, avec la proviseure du lycée Jean Lursa. Et des personnes du rectorat, donc des inspecteurs qui nous ont, au début il y a même eu le DAZEN, qui nous ont reçus pour travailler avec nous. Donc on était invités pour travailler avec eux sur le projet du LIP. Sauf qu'encore une fois, il y a toute une partie de l'équipe qui continue à défendre le LAP et qui sommes pas d'accord avec ce que le LIP, avec le LIP en fait, avec ce qu'on propose. Mais il nous a toujours été dit, officiellement, depuis le mois de février, que toute personne qui voudrait rester dans l'équipe, même avec le nouveau projet, pourra s'exprimer et rester. Et dans les faits, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce que ça a donc commencé il y a 10 jours, où un de nos camarades, collègues contractuels, qui est en poste depuis 4 ans, qui vient de terminer sa 4e année au lycée, a reçu une lettre commandée, lui signifiant que non seulement que son contrat ne sera pas renouvelé au LIP, mais que son contrat dans l'Académie de Paris ne sera plus renouvelé durant l'année 24-25. Donc ce qui veut dire en fait concrètement qu'il est au chômage à partir du 1er septembre. Donc, ce qui est quand même un coup très très dur. On écarte quelqu'un qui était là depuis 4 ans, qui était très apprécié par les élèves, les profs, et sans raison, sans explication. Il en a demandé, pour l'instant il n'en a pas. Et ensuite, 4 jours plus tard, vendredi dernier, 3 coups de fil qui sont passés assez rapprochés dans la matinée. Ça a commencé par Samuel.
Oui, c'était moi, le premier.
qui reçoit un coup de fil. Donc Samuel n'était pas encore préparé à ce coup de fil. Donc ça nous a aidé un petit peu par la suite pour nous, parce que j'étais la deuxième. Donc coup de fil du rectorat qui va juste dire au téléphone votre affectation, parce que nous, pour le coup, on peut pas parler de contrat vu qu'on est titulaire. Votre affectation ne sera pas reconduite l'année prochaine. Donc moi, quand j'ai demandé quelles étaient les raisons, on m'a dit parce que les affectations au LAP sont annuelles. Donc j'ai répondu que j'étais très étonnée parce que visiblement ce n'était pas la règle pour tout le monde. Et ensuite que j'exigeais des motivations écrites parce qu'en attendant, ce coup de fil n'avait aucune valeur. Donc là, je voyais qu'elle était un peu, que la personne de l'autre côté du fil était un peu déstabilisée. Elle m'a dit mais qu'est-ce que vous voulez faire avec cet écrit? Je dis déjà que je voulais une preuve et que j'allais le transmettre à mon syndicat et que j'attendais des motivations écrites qui ne sont pas arrivées. J'ai reçu un email qui me disait juste que l'affectation ne sera pas reconduite, mais sans explication. Et 5 minutes plus tard, troisième collègue, titulaire aussi, qui reçoit en fait même coup de fil, même lettre. Donc en fait, quand on regarde, parce que dans la foulée, on pensait que dans la foulée, ça allait continuer, parce qu'il nous reste encore en fait 4 collègues, 4 en fait, ouais. de notre camp, entre guillemets, de ceux qui soutiennent le LAP, ceux qui se battent, qui n'ont pas encore reçu de coup de fil ou de mail, mais ça va certainement arriver.
Qui ont d'ailleurs un peu appris aujourd'hui.
Oui, parce que, juste pour préciser, on sait aussi que de l'autre côté, en fait, on a un contractuel qui va se retrouver au chômage, mais de l'autre côté, on a plusieurs contractuels qui savent déjà qu'ils pourront rester l'année prochaine. après quand on regarde les titulaires, nous là pour l'instant on est 3 à avoir reçu ce coup de fil et ce mail, et on sait qu'il y a des titulaires qui sont là depuis quelques années, qui peuvent rester. Donc cet argument de d'affectation annuelle est complètement bidon.
De l'affectation à la tête du client.
Ah ben oui, complètement. C'est complètement, oui. Donc, la dernière nouvelle, ça a été aujourd'hui, donc, il y avait donc la troisième réunion de travail. Et ça a commencé, donc la réunion de travail à 14h, donc au lycée Jean Lursa. Et déjà, quelques collègues ont reçu de ceux que, par exemple, le contractuel qui avait été évincé avait reçu un petit mot en lui disant, oh, ben non, vous, c'est pas la peine que vous venez, vous êtes pas, vous devez pas venir. Moi, j'ai rien reçu. Mais on est, voilà, et on est arrivé au lycée Jean Lursa, et là, on est tombé, comme ça, sur le truc, on nous a dit, ah ben non, c'est pas pour vous, la réunion. D'accord. Et c'est pas pour vous, et c'est comme ça que les futurs évincés ont appris que c'était en route. Puisque certains n'avaient pas du tout eu de coup de fil, on leur avait pas dit comme ça, mais déjà, il était prévu que la réunion soit pas pour eux.
On n'a pas eu le temps de vous envoyer un mail.
Voilà, la réunion était déjà pas pour eux. Et ce truc-là nous a rappelé quelque chose qui s'était passé avec la première réunion. C'est que la première réunion, ils avaient déjà envoyé des invitations qu'à une partie de l'équipe. Et après, ils s'étaient repris, ils l'avaient envoyé à tout le monde.
Parce qu'ils s'étaient trompés aussi, que moi j'étais par erreur sur cette
voilà.
Liste.
Voilà, donc par erreur, ils l'avaient envoyé à quelqu'un.
Évidemment que j'en ai parlé aux camarades.
Voilà, mais donc ils avaient donc envoyé qu'à une partie de l'équipe, et ça, c'était quand? C'était en février?
Avril.
En avril, ils avaient fait ça, et en fait, cette liste, c'était déjà celle de ceux qu'on virait et de ceux qu'on gardait.
Et donc on peut évidemment se demander, mais qui a fait cette liste? Comment le rectorat peut savoir quelles sont nos convictions politiques? Quelle est notre position dans l'équipe? Ben, ils peuvent pas le savoir. Donc, cette liste, en fait.
Sauf qu'il y a une taupe qui donne des
liens. Il y a des taupes. Ah. Donc, cette liste, elle vient de l'intérieur. Ah, parce
c'est pas
que
beau, ça.
Les personnes qui restent.
Alors, je préfère balance. Est-ce qu'une taupe, c'est un petit animal sympa? En plus, j'ai une affection particulière pour les taupes. Donc, on est une balance.
Une balance, bah, voilà.
Ah, oh, c'est pas bien, ça. Ça finit les pieds en ciment, en canal de l'ourc, normalement.
Ah. Oui.
Oui, c'est une balance qui garde son poste.
Pour combien de temps?
Parce que pour combien de temps? Oui, c'est
un
ça.
Un jour, on se fera la gueule et balance aussi, mais.
Le temps de voir que le lip ne marche pas, et puis.
Voilà, c'est ça. Oui.
Que l'innovation innovante n'est pas tout à fait au point, n'est pas définie. D'accord, mais c'est machiavélique. C'est une histoire machiavélique, totalement machiavélique.
Ça, en fait, ça a lieu depuis l'année dernière. Mmh. Parce que quand j'évoquais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le LAP l'année dernière, l'été dernier. Bah, évidemment, ceux qui partent à la retraite, on leur souhaite de profiter de leur retraite. Mais ceux qui ont fait le choix de partir étaient en fait ceux qui avaient fait ces fameuses remontées au rectorat pour dénoncer le reste de l'équipe. Donc, ils sont partis par la suite et comme par hasard, chacune de ces personnes se retrouve depuis à des très très bons postes. Donc en fait, moi, la leçon que je retiens de tout ça, que ce soit l'été dernier ou maintenant, quand on veut rester au LAP, voire au LIP, enfin intégrer le LIP, ou alors partir mais se retrouver avec un bon poste, bah, faut balancer, dénoncer, cracher.
Des choses de sorcières, en fait.
Mais c'est quoi un bon poste quand on est prof? Alors moi, ça m'inquiète.
Un bon poste
Alors, je sais pas.
C'est quand on fait, on est payé 15 heures, qu'on en fait deux.
C'est plutôt
et qu'on les passe en délégation.
Fait, non, c'est plutôt concrètement quand, en fait, comme les profs. Je parlais des élèves qui peuvent, enfin, qui pouvaient jusqu'à présent venir des trois académies. Mmh. Et ben, les profs, tant qu'il y avait la cooptation, pouvaient également être issus, enfin, titulaires des trois académies. D'accord. Donc, quelqu'un, par exemple, Samuel n'est pas titulaire de l'académie de Paris. Moi, c'est mon cas, mais Samuel, non.
Moi, je suis de Créteil.
Donc, on pouvait être en fait en détachement et quand même être au LAP, alors que c'est pas notre académie. Mais ça veut dire que le jour où, enfin, on quitte le LAP, on se retrouve dans son académie d'origine. Sauf que là, dans les personnes qui sont parties l'été dernier, eh ben, elles ne venaient pas de l'Académie de Paris pour la majorité. Et certains se sont quand même retrouvés à la rentrée dans des postes de prépa ou des postes de fac.
Oh, mais c'est l'enseignement supérieur, ça, c'est une autre histoire. Ça.
Oui, c'est une autre histoire. Non, oui. Par exemple, bon, voilà, c'est les bons postes. Voilà, ouais. Moi, je suis de l'Académie de Créteil. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui préfèrent avoir un poste en lycée à Vincennes qu'en collège à Aulnay-sous-Bois. Quoi.
Ouais, oui,
voilà,
oui,
c'est,
oui.
Ça, c'est quelque chose qu'on repère assez rapidement quand on travaille
là. C'est incompréhensible.
Voilà, quoi, c'est... Donc oui, bon, il y a des...
Mais les années sont plus courtes, les années scolaires sont plus courtes et plus pétillantes à Aulnay.
Oui, 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 non, c'est ça.
Il y a des programmes un petit peu exotiques, enfin je...
Voilà. Ah, mais, alors c'est vrai que quand même, je me souviens des émissions qu'on avait faites précédentes, il y a deux ans, donc on ne peut plus les retrouver sur les podcasts de Radio Libertaire, mais... c'est vrai que déjà le LAP dépendait du ministère, et puis à un moment il était décidé qu'il dépendrait du rectorat. Donc ça remonte déjà quand même. Il y a longtemps en fait qu'on essaye de virer, de liquider.
Non, en fait, oui, il y a longtemps que ça déplaît.
Ah, peut-être depuis 1983 déjà, peut-être.
Oui, oui, non, mais c'est-à-dire que le ministère comme le rectorat étant des structures très hiérarchiques, en général, les structures hiérarchiques n'ont pas un goût forcené pour l'autogestion. Puisque le LAP, c'est quand même l'expérience de leur inutilité à ces gens-là. C'est que, c'est de montrer qu'on peut se débrouiller sans eux.
On va retenir la formule, sauf si elle est déposée, bien sûr. Et on s'en servira.
Voilà. Et donc, ils n'ont jamais aimé. Alors, il y a quelques cas, il y a quelques personnes, des isolés, des originaux, c'est arrivé. Hein, mais en règle générale, et donc, il y a toujours eu des petites attaques. Alors, il y a quelques années, ils avaient voulu, par exemple, supprimer 5 postes d'un coup. Donc, 5 postes sur une équipe de 25. Ça change un peu la donne. Donc, il y avait déjà eu ce truc-là. Il y a un moment, il y a eu plein de petites attaques, de petites mesquineries au cours de l'histoire, comme ça. Là, c'est la première fois qu'ils lancent une attaque massive, déterminée, jusqu'au bout.
C'est pas une petite mesquinerie, là. Ils mettent les deux bottes, là.
Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et avec clairement la volonté d'en finir, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et quel est le retour des élèves? Parce qu'il y a qu'est-ce qui remonte des élèves actuellement qui
C'est très différent. Il y a des élèves qui étaient catastrophés, qui ont pleuré, qui étaient sous le choc, que ce soit par rapport à la situation concrète du changement de l'établissement, mais aussi beaucoup d'élèves qui ont été très affectés par leurs profs qui sont suspendus, qui disparaissent du jour au lendemain, qui n'ont plus le droit de venir sur les lieux, qui n'ont même pas le droit de communiquer avec leurs élèves, en fait. Et donc, du coup, il y a des élèves qui quittent le lycée aussi. On a quand même beaucoup de départs cette année, là, pour la rentrée qui vient, par rapport aux autres années, parce que ce sont des élèves qui sont venus pour le projet du LAP et qui ne sont pas d'accord avec le projet du NIP et qui du coup se disent dans ce cas-là autant retourner dans mon lycée de secteur. Et il y a aussi des élèves qui restent parce que pour l'instant ils se disent c'est toujours mieux qu'un lycée traditionnel où j'attends de voir ce que ça donne et voilà, il y en a qui restent aussi.
Qui partent et qui n'ont plus d'établissement, c'est-à-dire que c'était ça ou rien, parce que c'était vraiment la structure qui leur convenait, c'était un choix, peut-être aussi avec le choix de leurs parents, enfin en tout cas...
Alors, concrètement, parce que, en fait, là, par hasard, tu tombes sur la personne qui s'occupe des changements d'établissement, parce que comme on fonctionne pas, enfin, vu qu'on avait l'autogestion, on fonctionnait par commission, et moi j'étais cette année en commission orientation, donc... ce que fait normalement un chef d'établissement sur les changements d'établissement, je le faisais. Et alors, la plupart des élèves, la majorité des élèves qui partent, c'est quand même pour s'inscrire ailleurs.
D'accord.
Après, oui, il y en a aussi qui disparaissent dans la nature, qui vont être...
Il y a aussi les effets de l'année qui nous ont fait passer. C'est-à-dire que cette année d'harcèlement permanent, les élèves l'ont subi. Les élèves l'ont subi et ça n'a pas été la meilleure année du LAP pour les élèves. Je rappelle juste un truc, c'est que aussi les élèves, très vite dans l'année, avec les questions de budget, est arrivée la question qu'ils nous interdisaient les sorties et les voyages scolaires. de dire que c'était plus financé. Et donc, c'était aussi l'une des particularités du Lab, de faire beaucoup de sorties et beaucoup de voyages scolaires, et de monter des projets avec les élèves qui les amenaient à voyager, des choses comme ça. Ça faisait vraiment partie de l'esprit du Lab, et ça a été sabrer complètement et dire non, fini, pas de voyage. Donc voilà, il y a aussi cette accumulation-là, les gens ont passé une mauvaise année, hein, et beaucoup d'élèves aussi, voilà, on comprend qu'ils n'aient pas envie de rester, hein, voilà, avec en plus toutes les incertitudes sur l'avenir.
Cela, c'est même antinomique par rapport à tout le message véhiculé par l'Éducation nationale, à savoir... C'est intégrer le plus de... Il faut éviter la déscolarisation, il faut éviter les ruptures, il faut éviter... et donc inviter le plus possible les élèves et les familles à maintenir ces jeunes dans le système scolaire, quel qu'il soit, du reste. Hein.
Oui, mais là-dessus, alors... Moi, j'ai quand même envie de préciser que trop souvent, on pense que le LAP... n'a que des élèves décrocheurs, hein. C'est pas non
plus.
Non,
c'est pas du tout.
Oui, on a aussi beaucoup d'élèves qui vont très bien, qui allaient très bien à mon arrivée, et qui viennent vraiment pour le côté autogéré et politique et pour s'investir. Enfin, qui sont pas là parce qu'ils cherchent à réparer quelque chose. On a plein de profils différents. Mais sinon, pour justement ce qui concerne les élèves, qui sont en décrochage ou en difficulté, quand on a directement posé la question au rectorat, on nous a quand même répondu que de nos jours, il y avait tellement de structures innovantes, micro-lycées, etc. partout, que justement, c'était une des raisons pour lesquelles on n'avait déjà plus besoin d'accueillir du public en dehors de Paris, parce qu'il y en avait partout et que, enfin, en gros, il ne fallait pas trop se soucier pour eux.
D'accord. Est-ce qu'ils vous ont cité des établissements avec des spécificités, des programmes, des équipes ?
Non.
Non, on les connaît, il n'y en a pas tellement.
Voilà, donc... À un moment donné, bon, tu me donnes une liste, là, puis on va vérifier ta liste.
Non, mais c'est-à-dire, c'est aussi un truc qu'on a appris, c'est la façon dont ils étaient prêts à dire absolument n'importe quoi. Ouais. Notre collègue d'anglais, donc, qui a été... dont le contrat n'a pas été reconduit, en fait, ça ne pouvait pas être sur quelque chose qui se rapproche de la faute professionnelle ou tout ça, puisque ces choses-là, il aurait dû avoir un entretien et un papier à signer. Donc, ça ne pouvait pas être ça, ils le savaient, ils étaient pas bons là-dessus, ils ne pouvaient rien présenter. Donc, ils ne se sont pas démontés, ils ont expliqué qu'on avait beaucoup trop de profs d'anglais en ce moment, que c'était, qu'il y avait une espèce d'inondation de profs d'anglais et qu'il fallait bien gérer les effectifs. Il nous disait ça, et puis il suffit de regarder sur un portable, on voit qu'il continue à recruter des profs d'anglais. Quoi.
Oui, c'est ce que j'allais te dire.
Voilà, c'est tout.
C'est deux, trois établissements, si tu veux, ça recrute. Hein. C'est,
voilà, ça recrute.
Enfin,
ça
devrait recruter. Voilà, c'est ça,
aussi, ça recrute même sur le bon coin maintenant.
Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est pas un peu une nouveauté de l'époque, la façon dont si vous voulez, des choses qui étaient des paroles d'autorité idéologique, tout ça, que maintenant c'est remplacé par du pur mensonge. On dit, il y a des élèves qui vont avoir besoin de tel dispositif, et vous le supprimez, ben c'est puisqu'il existe partout. Voilà, là c'est plus la peine de dire ces dispositifs, c'est des trucs de baba cool, des trucs comme ça, ça marche pas, tout ça, c'était la forme avant. Maintenant, il y en a partout. Voilà, il y a un espèce de truc, il suffit de raconter n'importe quoi.
C'est dans l'air du temps.
Ouais, c'est ce que c'est ça. Non, c'est bien sûr que c'est dans l'air du temps.
Bon, alors, on va bientôt arriver au terme de notre émission.
De la première.
On n'en est pas là. Je ne sais pas si vous voulez faire une petite conclusion là-dessus. Et puis, y a moyen. Encore, malgré tout, de lutter. Il y a des pétitions. Je vais voir le site.
Alors, le site. Même. Le site, je pense qu'il faudra s'en souvenir, parce que là, c'était le site du LAP.
Ouais.
Donc, ça ne peut pas être le site du LIP. Ça aussi, c'est un gros problème. Oui, il y a je pense que 42 ans de, de souvenirs qu'il va falloir conserver. Et oui, il y a une pétition.
Il y a une pétition en ligne, oui, pour défendre le LAP. Il y a quoi d'autre?
Est-ce qu'il y aura des... là, on est encore assez pris de court depuis cet après-midi pour les prochains jours. Donc, vu que les décisions tombent vraiment tous les jours...
Ah, c'est vrai qu'il y a eu des mesures disciplinaires. Hein. Il y a eu des... Et Pascal, il y a eu Déborah. Ouais.
Déborah, finalement, elle attend parce qu'elle n'a pas eu son conseil de discipline.
Je suis allé sur les deux. C'était dans la même semaine. J'étais en congé. Je suis déplacé. C'est à côté de chez moi, en plus. Mais je sais pas, il y a encore besoin de soutenir physiquement.
Normalement, ils vont très vite savoir la suite, hein, puisqu'ils ont été suspendus le 26 février et qu'une suspension dans l'éducation nationale ne peut pas aller au-delà des 4 mois. Donc le 26 juin, on est bientôt. Donc on devrait être fixé sur les conséquences individuelles la semaine prochaine. Après, on peut quand même fortement se douter, vu ce qui se passe actuellement, qu'ils ne vont pas pouvoir revenir au lycée. Mmh. Donc la suite immédiate pour nous maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec nos 4 collègues qui n'ont pas encore reçu quoi que ce soit, mais qui sont clairement sur les sièges éjectables comme nous.
Oui. Donc il y a... en train de dire qu'il n'y a plus grand-chose à faire, quoi. De toute façon, oui, c'est un petit peu c'est un petit peu ce qu'on a raconté tout le long de cette
heure et demie. Oui, en fait...
Il y aura des recours à faire ensuite.
Il y aura des recours à faire, mais là, on est... oui, on peut envisager des mobilisations. On n'a pas de date, là, pour le moment, mais... voilà, quoi, ça me semble un peu...
Bon, en tout cas, préciser. Si vous avez... Ah ben non, vous n'avez pas nos sites, toi, tu as notre adresse mail pour l'émission.
Il y a un comité de soutien. Il y a un comité de soutien aussi.
Ouais, voilà.
Qui se réunit tous les lundis soirs.
Qui se réunit tous les lundis soirs. Alors, en ce moment, c'est à La Fourche, c'est le local de la comment ça s'appelle? C'est le syndicat, en fait. C'est le
FSU, SNUP.
Oui, c'est le syndicat, c'est lié à la FSU. C'est le syndicat de la ville de Paris, ça s'appelle... Les employés Ville de Paris à la... Hein, ça y est, j'ai oublié le nom. Ça s'appelle... Voilà.
Encore, on essaie de récupérer l'info et de la transmettre. Ouais. Enfin, on doit pouvoir trouver ça sur Internet ou...
Oui. Voilà. Ouais,
trouver avoir les bons... pas les bons critères, mais enfin bon.
Les bons éléments à diffuser.
Mais non, mais... Les critères de recherche pour...
Ah oui, bon. On va trouver...
Donc c'est tout. On s'arrête là-dessus donc pour le
la soupape. Voilà, c'est la ça soupape. La soupape, c'est le nom du syndicat. Monsieur, donc il se trouve vers le métro La Fourche, dans le 18e, et c'est là qu'ont lieu les réunions le lundi soir à partir de 19h.
Et c'est ouvert à tous.
Oui.
Oh oui, c'est ouvert à tous. Oui.
Bah, tous et toutes.
Sauf à ceux qui bavent, qui
mauvais, méchants.
Dénoncent et qui ne soutiennent pas.
On a peut-être, non, qui viennent.
Ah bah oui, pour avoir plus d'informations, oui. Bah oui, bien sûr. Parce qu'ils font bien leur boulot. Ouais.
Bah, après, il y a une belle promotion qui les attend, hein, visiblement.
Oui.
Bon, nous, effectivement, on essaiera peut-être de... On verra avec Pascal, parce qu'elle est en déplacement. Et peut-être Déborah aussi, si elle a envie. Et puis vous, si vous avez envie. On peut pouvoir refaire une émission le 1er juillet. Mmh. Donc voilà.
Dans 15 jours.
Vous êtes les bienvenus, si vous voulez.
Merci.
Quand des trucs à dire, taper.
Ça passe vite. T'as vu, c'est très riche, c'est dense, et on n'a pas tout dit. Donc il n'y a pas d'inquiétude.
Donc voilà, la technicienne m'envoie des petits messages. Vous entendez pas, vous n'avez pas de casque. Il
faudra remplacer ça par un waf de cocker.
C'est bon. Non, c'est très bien, mon chat.
J'attends les enregistrements.
Ok. C'est...
Quelques infos pour terminer. Donc, j'arrive pas à me relire. C'est terrible, hein. je ne sais plus ce que j'ai marqué. Mais en fait, le samedi 29 et dimanche 30 juin, c'est un peu plus tard, donc de 11h à 12h, chez Publico, Publico est en fête d'été, et donc il y a une grande braderie. Hein? Donc, vous n'allez pas savoir quoi faire, vous allez pouvoir acheter des bouquins et puis les lire, ça va vous occuper. Voilà. La librairie Publico, c'est au 145 rue Amelot, donc à Paris, dans le 11e, donc le 29 et 30 juin, une braderie, de 11h à 19h. Sinon, il y a une soirée de soutien aux grévistes, Donella, je ne sais pas si vous connaissez Donella. Hop. Voilà, avec alors cette soirée de soutien, elle est quand? C'est mercredi, je crois, parce que j'ai pas noté la date, c'est un peu con. Elle n'est pas dessus. Je crois que c'est mercredi prochain. Oh, allez, hey, on est des pros quand même. Hein. Donc, au programme, à 19h, mercredi, on sera le combien? On est 17, 18, 19, 19. Quelque chose comme ça.
19 juin.
À 19h, il y a un point sur les grèves. Donc, une discussion avec d'autres grévistes de divers secteurs, si j'ai bien compris. D'activité. Et à 20h30, un concert de Mi Amor on the Tea. C'est du chamber pop. Rien à foutre, Samuel.
Samuel, il connaît bien.
Il est pareil. Il s'en fout de la musique. Hein. C'est pas, on sent que c'est pas son truc. Hein. Michel Sardou, peut-être un peu quand même.
Non, du tout.
Voilà. Bon, les. Voilà, donc les grévistes de Donella sont en grève depuis 4 mois quand même. Ça dure aussi, hein. C'est un peu comme des mises à pied. Hein. On n'a pas de salaire. Voilà. Donc c'est dans le secteur d'aide à la personne. Et il y a aussi une caisse de grève et une pétition de soutien aussi. Et ça, j'invite les auditeurs, les auditrices à aller sur les sites, taper Donella grève et vous allez tomber tout de suite. La première occurrence, c'est. C'est eux, voilà. Sinon, vous allez sur les sites de Paris Lutte Info, et puis là, vous trouverez de quoi retrouver les pages aussi de leur site. Vous êtes sur... Non, il n'y a pas sur Paris Lutte Info, vous, ou sur l'agenda militant. Il n'y a pas d'infos spécifiques sur...
Il y a eu des fois, des choses.
Pour l'instant, il n'y a pas de grand...
Pour le moment, on n'a pas de rendez-vous.
C'est ça. Vraiment, donc, bon. Sinon, on peut vous retrouver là-dessus, si vous en avez.
Oui. Voilà. On essaiera de nourrir ces sites.
Et puis, on avait reçu aussi, puisqu'il est 57, il reste 2-3 minutes, on avait reçu aussi les camarades de Rougier et Play, avec lesquels on a fait des émissions aussi, que vous pouvez retrouver sur le site de Radio Libertaire, au Monde Merveilleux du Travail. Et eux, effectivement, il y a... Ils ont été en grève. Là, il n'y a plus grand-chose, mais il y a quand même une caisse de grève. Donc, si vous voulez soutenir économiquement, c'est toujours chez les Jeannards où il y a moins de fric, qu'on demande toujours plus de fric. C'est dingue, hein, quand même. Hein. Voilà, donc vous allez sur le site de Sud Commerce, ou la Fédération Sud Commerce. Et puis, vous aurez toutes les infos pour Rougier et Play. Et le soutien financier. D'autres choses à dire ?
Allez, un petit mot de la fin, quand même, de la fin de l'émission.
Non, ça y est.
Non. Une annonce fracassante.
Non.
Cri de haine.
Non.
On demande la réintégration. Des suspendus de nous tous.
Une petite pensée aussi pour les 50 lycéens du lycée Hélène Boucher qui ont été arrêtés, menottés et passés une nuit en garde à vue. Là, il y a une semaine, à peu près.
C'est l'apprentissage de la démocratie.
Et qui sont menacés de conseils de discipline et tout ça pour avoir voulu manifester leur soutien à la population palestinienne. Donc, voilà.
Ce sont des terroristes, des lycéens terroristes,
j'ai entendu que c'était en fait l'approviseur qui était à plainte, puisque toute cette histoire a fait qu'il paraît qu'on a dit du mal d'elle. Donc voilà, faut pas...
Lui aurait-on tiré les couettes.
Voilà.
Bon, voilà. Bon, en tout cas, on vous remercie, Valérie, Samuel,
d'avoir
passé une heure et demie avec nous. Merci Bénédicte d'avoir fait la technique. Tu vas lancer le générique. Merci Eric.
On va quand même.
Et puis, bref. Et puis, bah, si on peut, bah, vous revenez quand vous voulez. Voilà.
Ouais.
Hein, vous avez tous. Profitez-en parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 15 jours. Hein, avec les élections. Et puis là. Là, il n'y a pas que le lab qui va morfler. Et ciao, merci à tous. On se retrouve le 1er juillet.
Peut-être.
Salut.
Peut-être un
car moi, je veux.
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Le proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Bonsoir. Ce soir, nous allons parler d'un livre à la fois très dur et très important qui s'appelle en allemand « Bittere Orangen, eine neues Gesicht der Sklaverei in Europa ». J'espère que ma prononciation n'a pas été trop abominable. Et qui, en français, donne comme titre « Orange amer, un nouveau visage de l'esclavage en Europe » de Gilles Rettinger. Et cette traduction est parue chez Raison d'agir. On devine immédiatement quel est le thème de ce livre. C'est la vie des migrants, des immigrants, de tous ces gens qui viennent en Europe, principalement d'Afrique, qui viennent en Europe croyant toucher un meilleur avenir et entrant en fait littéralement en enfer. Ce livre se base sur une recherche mi-journalistique, mi-quasi-ethnographique que Gilles Rettinger a accomplie dans les camps de migrants en Italie du Sud. Fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, l'Europe voit donc tout d'un coup un énorme phénomène migratoire d'une ampleur qui avait été jamais vue jusque-là dans l'histoire moderne. L'une des difficultés immédiates, comme le dit Rettinger, dans la mesure où les politiques des pays européens continuent de traiter les arrivées de migrants en Europe comme autant d'urgences successives, et non comme un phénomène social structurel, appelant une politique construite sur la durée, elle ne vise pas l'inclusion des nouveaux arrivants, mais seulement le contrôle et la dissuasion des arrivées. Et c'est ce qui se passe. On sait que, en gros, les partis de droite, et évidemment surtout les partis d'extrême droite, voient l'immigration officiellement comme une menace, et que, à gauche, l'attitude principale a été tout simplement d'essayer de contrer l'attitude de la droite, et assez peu, du point de vue des programmes politiques, assez peu d'essayer de, comme dit Rettinger, comprendre qu'il s'agit là d'un phénomène structurel, et surtout de se dire qu'il faut inclure les nouveaux arrivants. En réalité, la première chose à se demander devant le phénomène migratoire, c'est entendu d'essayer de comprendre pourquoi des millions de gens sur plusieurs continents quittent leur pays, quittent leur famille, prennent des risques parfois insensés, des dépenses qui sont pour eux colossales, pour venir dans un autre pays, dans une autre culture? La première réponse, elle est évidente. A priori, ce sont les gens des pays pauvres qui vont dans les pays riches. Donc, c'est à cause de la misère dans les pays de départ. Donc, la première chose qu'il faudrait faire, c'est de détruire la misère et la pauvreté dans ces pays-là. Évidemment, chose nettement